L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour la première de ces deux émissions thématiques traditionnelles à la charnière de l'hiver et du printemps. La deuxième, la seconde même en l'occurrence, dimanche prochain, sera une émission thématique exceptionnelle puisque nous avons eu la chance d'enregistrer cette semaine une émission complète avec Mario Vargas Llosa, à la fois prix Nobel de littérature et aujourd'hui nouvel écrivain de la Pléiade, et avec lui nous avons parlé et littérature et aussi beaucoup de l'Amérique latine et de sa situation. Mais aujourd'hui avec Nicole Niesoto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au CNAM, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, et avec Jean-Louis Bourlange, essayiste, nous recevons le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Pascal Brice. Pascal Brice, bonjour.
Bonjour.
Alors que l'année 2014, Pascal Brice, a été marquée par des arrivées massives de migrants sur les côtes italiennes depuis la Libye, 2015 a vu le flux migratoire se reporter vers la Grèce, où plus d'un million de personnes ont accosté selon l'Organisation internationale pour les migrations. Les déplacements les plus importants ont eu lieu à la fin de l'été 2015, au cours duquel le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies a recensé jusqu'à 10 000 arrivées par jour. Mais le phénomène ne tarit pas, puisque pour le seul mois de janvier dernier, plus de 58 000 personnes sont entrées en Europe via la Grèce. Les décès en mer sont de plus en plus nombreux. Au 9 février, l'OIM dénombrait 319 morts en mer Égée contre 805 en tout pour l'année 2015. Si une partie de ces migrants ne peut pas espérer obtenir le droit d'asile en raison de sa nationalité, le Haut Commissariat aux réfugiés pour les Nations Unies estime que 91% d'entre eux y auraient droit, dont 48% de Syriens, 33% d'Afghans et 10% d'Irakiens. L'Allemagne a accueilli près d'un million de réfugiés depuis le début de la crise, à la faveur de la politique d'ouverture mise en place par Angela Merkel dès la fin de l'été 2015. Mais depuis, la route des Balkans est coupée. La Slovénie, la Macédoine, la Serbie et la Croatie ont fermé leurs frontières et parfois construit des murs pour empêcher les migrants sans visa de transiter par leur territoire. Les pays du bloc de l'Est, comme la Pologne et la Hongrie, ont affirmé leur hostilité au programme de relocalisation adopté par le Conseil de l'Union européenne en septembre. Le dernier plan européen consiste en un accord de l'Union avec la Turquie, qui s'est chargé de récupérer sur son sol un migrant entré illégalement en Grèce, en échange de l'accueil d'un demandeur d'asile par l'Union européenne. Ainsi, depuis le 20 mars, les réfugiés qui accostent en Grèce ne peuvent plus prétendre continuer leur route vers l'Europe. Conformément au plan de relocalisation, François Hollande s'est engagé à accueillir 30 000 demandeurs d'asile avant 2017. Au 24 janvier 2016, 208 personnes avaient été relocalisées dans l'Union européenne, dont 94 en France. Une réforme du droit d'asile est entrée en vigueur dans notre pays le 1er novembre dernier. Rédigée avant que la crise migratoire ne devienne la préoccupation principale en Europe, elle a notamment pour objectif de réduire à 9 mois le traitement par l'OFPRA d'une demande d'asile, alors que cette demande demandait alors un traitement de plus d'un an. L'OFPRA prend part au programme de relocalisation européen en menant des entretiens de sécurité sur place avant de prendre en charge l'acheminement des personnes jusqu'en France. Pascal Brice, vous êtes à la tête de cet Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, depuis décembre 2012. Vous avez été reconduit en novembre dernier pour un mandat supplémentaire de 3 ans. Et lors de votre premier mandat, vous avez fait croître les effectifs de l'Office, qui sont passés de 455 à 640 personnes, et vous avez intensifié les missions à l'étranger. Vous êtes connu pour avoir fait évoluer le style de cet établissement public, en vous rendant sur le terrain pour rencontrer les demandeurs d'asile, sur l'île de Lesbos, ou dans les camps du nord de Paris, ou encore dans ceux du nord de la France. Est-ce qu'on peut, pour commencer cette émission, vous demander ce que vous avez retiré de ces visites in situ et comment nous pouvons ou comment nous pourrions tirer les leçons de Calais, de Lampedusa et de Lesbos. Pascal Brice.
Vous savez, vous l'avez bien dit, nous sommes collectivement européens, français, les officiers de protection de l'OFPRA plongés depuis de longs mois dans ces drames de l'exil, de ces hommes, de ces femmes, de ces familles. Qui traversent la Méditerranée dans des conditions terribles, qui fuient les persécutions en Irak, en Syrie, en Afghanistan, dans la Corne de l'Afrique. L'Europe est confrontée à une crise de l'asile. La France, on pourrait y revenir, n'est pas en situation de crise de l'asile. La tension est forte sur le système de l'asile, mais nous ne sommes pas en situation de crise. Et c'est dans ces circonstances-là qu'effectivement, depuis de longs mois, nous sommes, et que je suis avec les officiers de protection, auprès de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, afin qu'ils puissent exercer leur droit à l'asile dans notre pays. Qu'est-ce que j'en retiens ? L'ampleur des drames, la dignité de ces hommes, de ces femmes, de ces familles, l'extraordinaire chaos de leur parcours, la nécessité pour nous d'être dans cette bienveillance absolue et en même temps dans cette rigueur, parce que l'on voit bien la nature du débat en France, partout en Europe, sur l'accueil des réfugiés. Et l'OFPRA exerce sa mission, et plus généralement, notre volonté de contribuer à l'accueil des réfugiés, un accueil digne, organisé et maîtrisé, parce que c'est cela aussi que je retiens de ce que nous vivons en Grèce, en Italie, que nous avons vécu avec nos amis allemands si extraordinaires en septembre dernier, lorsque le président de la République nous a envoyés accueillir des réfugiés à Calais. C'est la nécessité que cet accueil se fasse dans la dignité, mais dans l'organisation et la maîtrise. Car je crains qu'à défaut d'organisation et de maîtrise, et à certains moments, ce qui a pu être vu par nos compatriotes de ce qui se passait à Calais donnait le sentiment de l'absence d'organisation et de maîtrise. Alors même, j'y reviendrai, que pour la première fois depuis quelques mois, le droit d'asile a droit de cité à Calais. Des milliers de personnes à Calais ont demandé l'asile, ont quitté Calais sur ces bases-là. Donc nous sommes dans cet effort de volontarisme, comme nous l'avons fait dans les campements parisiens pendant toute l'année. Plus de 5000 personnes qui étaient dans les, vous vous souvenez, Austerlitz, le quai d'Austerlitz, le lycée Jean Carré, où j'ai eu le plaisir de retourner échanger avec les migrants il y a quelques jours parce que ce centre a été transformé en centre d'hébergement par Emmaüs pour des migrants. Il faut organiser les choses pour que ce soit dans la dignité que cet accueil puisse grandir. Mais c'est vrai que le défi est immense. Il est européen parce que ce qui se joue, c'est notre capacité à faire vivre nos valeurs de l'asile et de l'accueil dans un moment qui est un moment complexe. Et donc, à la fois en tant que directeur général de l'OFPRA, je veux le dire d'emblée, pour l'OFPRA, il n'y a pas de limite, puisque le principe fondamental auquel nous veillons est qu'évidemment, toute demande d'asile déposée en France doit être examinée par l'OFPRA. Il n'y a pas de quota, pas de limite. Cela n'empêche pas le débat public, la conduite de politique publique au niveau national européen, où la question se pose évidemment de notre capacité collective en tant qu'Européens, parce que c'est aussi la question de l'unité de l'Europe qui est posée aujourd'hui, à réussir cet accueil digne et maîtrisé de l'accueil des réfugiés.
Nicole Nisotto.
Oui, moi justement, je voudrais revenir sur ce que vous appelez cette crise de l'asile en Europe. Et parce qu'il me semble qu'une des raisons du désordre, ou de même plus de la désorganisation des Européens face à cet afflux massif de réfugiés, ce sont justement les différences de conditions entre les 28 pays européens pour l'attribution du droit d'asile. Et on assiste même à une sorte de, entre guillemets, non pas dumping social, mais de dumping asilaire de la part de certains réfugiés quand ils en sont conscients, avec des pays qui sont réputés accorder facilement l'asile, comme l'Allemagne, la Suède, l'Italie, qui, je crois, accorde plus de 50% des demandes qu'ils reçoivent, et la France, considérée comme un pays plus réticent, en tout cas peut-être moins généreux. Et donc ma question est-ce que vous pensez que la négociation et peut-être la signature d'un droit d'asile européen unique, commun aux 28, serait de nature à faciliter la répartition de ces réfugiés, à lisser un peu le problème? Le droit d'asile européen, il est dans le traité d'Amsterdam depuis 1997, il est dans l'article 78 du traité de Lisbonne, mais à ce jour, il a donné lieu à très très peu de concrétisation. Autrement dit, est-ce que vous pensez que c'est possible, que c'est souhaitable, ou que c'est infaisable parce que la souveraineté est première dans l'attribution de la, sinon de la nationalité, en tout cas de l'accueil sur un territoire?
Pascal Brice.
Je dirais que c'est le sens de l'histoire. En tout cas, je le souhaite. Je le dis devant Jean-Louis Bourlange. Je souhaite que l'on puisse dire que l'intégration sans cesse plus poussée de l'Europe reste dans le sens de l'histoire. Et je considère que c'est le cas en matière d'examen des demandes d'asile. Je voudrais tout de même préciser que je crois qu'il y a parfois un effet d'optique. Ce qui me paraît indéniable, c'est le caractère, pendant un long moment, pendant le long mois en 2015, désordonné de la réponse des Européens à cette crise de l'asile. Et la recherche de solutions coordonnées depuis plusieurs mois à travers les décisions du Conseil européen. Ce qui me paraît aussi indéniable, c'est l'extraordinaire divergence des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans les pays membres de l'Union. En revanche, je dois vous dire qu'il n'existe pas de différence majeure de conditions d'attribution de l'asile entre les grands pays européens. Quand vous regardez les procédures qui sont régies par une directive européenne, comme vous le savez, quand vous regardez les taux d'accord dans les grands pays européens d'asile, c'est-à-dire l'Allemagne, la Suède, la France, la Belgique, les Pays-Bas, vous retrouvez à peu près les mêmes taux d'accord. La raison pour laquelle vous avez un taux d'accord global de près de 50% en Allemagne, 31% en France, c'est qu'en fait, vous avez en Allemagne une plus grande proportion de demandeurs d'asile relevant de taux de protection très élevés, les Syriens. Il y a 10 fois plus de Syriens en Allemagne qu'en France, on pourrait y revenir. Le taux d'accord pour les Syriens est de 97% en France comme en Allemagne. Mais les taux d'accord par pays d'origine dans les grands pays européens sont les mêmes. Donc, je dirais que aujourd'hui, me semble-t-il, et cela renvoie notamment aux premières lignes directrices proposées par la Commission européenne récemment, la question est posée, me semble-t-il, un, de l'harmonisation des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Europe, deux, de la mise en œuvre des réponses coordonnées des Européens à la crise de l'asile, notamment en Grèce et en Italie. Et j'ajouterais que, effectivement, même si aujourd'hui les conditions d'attribution du droit d'asile un peu partout en Europe, je parle des grands pays d'accueil, sont les mêmes, je pense en effet que la perspective d'un OFPRA européen, tel que la Commission européenne l'a décidé, d'une autorité de détermination européenne, est une perspective qu'il faut retenir. Je le dis à titre personnel, puisqu'il reviendra au gouvernement de se prononcer dans le cadre européen. Mais je voudrais immédiatement préciser qu'à mes yeux, il y a à cela une condition fondamentale. C'est que cette autorité européenne soit pleinement indépendante, comme l'OFPRA l'est au niveau français. Or, la réalité, c'est que dans la plupart des pays européens, nos homologues n'ont pas l'indépendance dont nous bénéficions et que Bernard Cazeneuve et Manuel Valls ont voulu inscrire dans la loi Asile de juillet dernier. Il faut que, si cette autorité européenne existe, et je le souhaite personnellement, elle soit indépendante des exécutifs nationaux et européens.
François Bujon de l'Étang.
Je voudrais prendre un peu de recul et faire un petit retour en arrière historique, ce qu'on appelle en français postmoderne, un flashback. La France a une longue histoire avec le droit d'asile et elle a été confrontée au fil du XXe siècle à plusieurs crises, plusieurs vagues successives de migration créées par des révolutions, des guerres civiles, etc. Il y a eu à traiter successivement les Russes blancs dans les années 20, les réfugiés de la guerre civile espagnole à la fin des années 30, les populations déplacées d'Europe centrale à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et puis plus récemment, les boat people en provenance du Vietnam, mais aussi du Laos et du Cambodge. Elle n'a pas toujours eu une performance admirable, comme chacun sait. Si vous parlez, si vous lisez Madame Nina Berberova, vous voyez que les conditions d'hébergement ou d'accueil des Russes blancs dans les années 20 n'étaient pas bonnes et elles étaient meilleures dans d'autres pays européens comme la Belgique ou comme l'Allemagne. Les réfugiés espagnols ont une histoire souvent très, très tragique. Par contre, les boat people, plus récemment, ont été beaucoup mieux accueillis et se sont très facilement intégrés. Je serais curieux de vous entendre avec votre expérience sur cette trajectoire historique. Quel est le bilan que l'on peut tirer de ces différentes expériences? Quelle est l'image pour la France dans l'histoire sur l'accueil des réfugiés politiques?
Pascal Brice.
C'est une question sur laquelle nous nous penchons régulièrement à l'OFPRA parce que nous avons voulu, depuis quelques années, ouvrir nos archives. Elles sont d'une richesse extraordinaire. Je propose d'ailleurs à tous les universitaires qui travaillent sur ces questions-là de venir travailler sur les archives de l'Office qui sont maintenant ouvertes et encore une fois riches de cette histoire de l'exil en France, des Russes, des Espagnols ou encore des boat people du Vietnam ou de l'Amérique latine. Nous avons célébré il y a peu l'anniversaire du coup d'État au Chili et de l'exil chilien en France qui a marqué notre pays.
Bien sûr.
Donc cette histoire existe. Je la crois puissante. Je crois aussi indispensable de pouvoir conduire une politique de l'asile en France qui se garde de ce qui apparaît souvent dans le débat public et qui est relève d'oscillations permanente entre une forme de repli thématique qui voudrait que la France accueillerait trop, et puis les mêmes, quelques jours après, vous disent que la France n'est plus une terre d'asile. Je crois la réalité différente. Je crois que notre pays est un pays d'asile, a une tradition, mais relève aussi d'une histoire de migratoire différente de celle des autres pays européens. Moi, je suis frappé de voir, par exemple, l'évolution de l'Allemagne de ce point de vue-là. Si l'on regarde l'Allemagne, on se rend compte que l'Allemagne découvre, depuis quelques mois, une réalité des flux migratoires que la France connaît de longue date, c'est-à-dire des personnes qui viennent dans notre pays pour des raisons économiques et pas seulement pour des raisons relevant de l'asile. Et l'Allemagne découvre cela, parce que la tradition allemande est d'avoir une immigration économique très organisée depuis la Turquie, depuis de nombreuses années, et à l'inverse, périodiquement, des arrivées massives et une ouverture massive à des personnes qui fuient des situations de conflit. La France a une histoire différente. La France a une histoire de flux migratoires plus ancienne et dans le même temps de capacité d'accueil. La question qui se pose à mes yeux est évidemment celle de notre capacité aujourd'hui à prendre notre part de l'accueil. Et ce que je ressens à rencontrer sans cesse des associations, des citoyens engagés dans l'accueil, c'est à la fois, semble-t-il, une opinion qui peut être dans le doute, dans l'interrogation, parfois dans la méfiance, et puis en même temps une volonté d'accueillir, voire une impatience à accueillir dans notre pays. Et je crois que les deux sont vrais. Et c'est la raison pour laquelle, à la tête de l'OFPRA et avec les officiers de protection de l'OFPRA, nous veillons à incarner et à porter cette politique dans ce qu'elle doit comporter de bienveillance, de capacité à accueillir et de rigueur. Et de rigueur parce que je crois fondamental dans cette période, et même si je sais qu'il existe un débat autour de cela, de préserver la spécificité de l'asile au regard de la politique migratoire. J'entends souvent des interventions visant à dire « mais au fond, cette distinction n'est plus d'actualité, elle ne permet pas de répondre aux drames humains qui sont là », et donc une sorte d'invitation à la confusion. Personnellement, je crois cette confusion dangereuse. Parce que si aujourd'hui l'on procède à cette confusion pour de bonnes raisons, on légitime demain la confusion pour de mauvaises raisons. Alors même que le droit d'asile est évolutif. Nous sommes à l'OFPRA dans un travail très approfondi pour mieux protéger des hommes, des femmes persécutés en raison de leur orientation sexuelle dans leur pays. Des mineurs isolés, des femmes victimes de violences, je pense à des femmes du Caucase par exemple, victimes de violences conjugales, ou des femmes venues d'Éthiopie, victimes de mariage forcé ou de l'excision. On voit apparaître par exemple à l'OFPRA des pratiques en matière d'excision qui existent, hélas, de longue date en Afrique de l'Ouest, qui nous conduisent à protéger 4000 petites filles et jeunes filles contre cela, mais qui apparaissent maintenant au Soudan. Donc le droit d'asile évolue, mais il faut en préserver l'intégrité. Et je crois, monsieur l'ambassadeur, que notre pays, même s'il a pu avoir à certains moments des difficultés dans sa capacité à accueillir, a toujours répondu présent et continue à le faire. Mais il faut pour cela, encore une fois, que notre politique d'accueil des réfugiés continue à se développer dans la maîtrise, dans l'organisation, y compris, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, sur un aspect particulier de l'époque, dans lequel l'OFPRA, vous l'avez dit dans votre présentation, prend toute sa part, qui est la préservation contre le risque terroriste. C'est-à-dire qu'il revient à l'OFPRA, lorsque les personnes demandent l'asile en France, de vérifier qu'elles n'ont pas ou qu'elles n'ont pas vocation à avoir des agissements contraires à la Convention de Genève. C'est ce que prévoit la Convention de Genève, que l'OFPRA doit exclure celles et ceux qui ont commis des actes de barbarie ou qui constituent une menace. Je pense par exemple à des gens qui ont pu collaborer avec le régime de Bachar al-Assad et qui demanderaient l'asile en France, qui doivent être exclus à ce moment-là du droit d'asile, tout comme des djihadistes qui également pourraient demander l'asile en France. Le cas est rare, mais la vigilance de l'OFPRA est constante et nous le devons, me semble-t-il, à l'adhésion des Français à cette politique de notre pays.
Jean-Louis Bourlange ?
Oui, je voudrais revenir, Pascal Brice, à ce que vous avez dit en matière européenne. Il est évident que on souffre tragiquement d'une absence de politique européenne commune dans ce domaine. Et vous avez évoqué la perspective de la création d'un OFPRA européen, un OPRA en soi, en disant, et je crois que vous avez tout à fait raison, en soulignant que la condition pour que ça fonctionne de façon satisfaisante, ce serait l'indépendance de cet organisme. Mais cette indépendance n'est elle-même possible, jouable, si je puis dire, qu'à la condition qu'il y ait entre les membres qui se retrouvent dans cette affaire un minimum de consensus sur les objectifs. Sinon, si c'est une machine à contourner le dissensus et à forcer un certain nombre d'États, qui aient tort ou raison, dire c'est un autre problème, à faire une politique qu'ils n'ont pas envie de faire, ça ne marchera pas. C'est pas que ça c'est bien ou mal, mais ça ne marchera pas. Alors je m'interroge sur ce consensus. On voit bien l'ampleur de la réaction, notamment des États de Visegrad, qui manifestement ne sont pas au diapason de l'Allemagne. Nous-mêmes, nous sommes dans une situation parfois incertaine, mais je voudrais essayer de clarifier. En matière de droit, les fondements, me semble-t-il, c'est que toute demande d'asile suppose un examen individuel sur le territoire européen. Que, deuxièmement, quand le droit d'asile est reconnu, la demande paraît fondée, il n'y a pas de contingentement possible. On ne dit pas, maintenant, vous avez dépassé les quotas, c'est hors quota. Et troisièmement, il ne peut pas y avoir de refoulement sans avoir cet examen individuel préalable. Bon, ça, c'est le corpus juridique. Il me semble que jusqu'à présent, même si, comme le rappelait Nicole, il y a des divergences d'appréciation et de pratique dans les États membres, ces trois principes, ils sont reconnus par tout le monde, même s'ils sont défendus par une partie seulement des membres de l'Union européenne. Donc ça pourrait... Est-ce que là, il y a quelque chose qui, sur lequel on peut faire valoir à nos amis hongrois, polonais, tchèques ou slovaques, pour ne citer qu'eux, que vraiment, ils sont totalement au-delà de tous les engagements juridiques qu'ils ont souscrits. Deuxièmement, on a un problème de moyens. Il est évident que le système actuel, le système de Schengen, fait porter l'essentiel de la tâche, sans solidarité réelle sur le plan financier, sur des États périphériques, souvent fragiles et souvent minuscules. Le cas le plus caricatural étant celui de Malte, qui est un portail d'accès minuscule en face d'un continent immense. Et donc là, est-ce qu'il peut y avoir, à votre avis, un consensus pour dégager une solidarité plus réelle? Bon, c'est ce que propose la Commission, mais comment voyez-vous les blocages? Et troisièmement, le plus grave peut-être, c'est qu'il y a, me semble-t-il, un dissensus entre les États européens sur, notamment les notions que vous avez évoquées à l'instant, sur la nature même de la participation des migrants, disons pas seulement des réfugiés, des migrants à la vie de la communauté, à l'Union européenne. Disons qu'entre Madame Merkel, qui dit au bout du compte j'accueille les réfugiés sans contingentement parce que en fait je suis assez satisfaite de voir arriver des gens qui vont compenser la faiblesse démographique allemande, et puis à l'inverse Monsieur Orban ou quelques autres qui disent pas question de transformer la Hongrie en autre chose qu'un club chrétien. Et la position qui devrait être intermédiaire, qui est celle de la France, qui est de dire on a des devoirs en matière de réfugiés et on en a moins, ou du moins c'est ouvert en matière de migration économique. Comment, dans ces trois grandes problématiques, est-ce que comment voyez-vous les blocages principaux entre les pays européens?
Pascal Brice.
Votre présentation montre bien qu'à mes yeux, il y a un intangible. Il y a un noyau dur. Pour reprendre l'expression qui nous est chère au plan européen, c'est ce qui tourne autour de la Convention de Genève. C'est un texte sacré pour l'OFPRA, pour la communauté internationale. Et je le crois, évidemment, pour l'Union européenne, il doit l'être absolument. Ce qui signifie que les principes que vous avez rappelés sont intouchables. Que lorsque l'on évoque l'idée d'un OFPRA européen, À mes yeux, il s'agit bien de constituer ce que l'on appelle une autorité de détermination du statut de réfugié au niveau européen, qui évidemment mettrait en œuvre la Convention de Genève, les textes européens sur la protection subsidiaire pour les pays en conflit généralisé, comme la Syrie ou une partie du Soudan aujourd'hui, et qui donc mettrait en œuvre ces principes de droit d'asile indépendamment de questions qui relèvent de l'accueil des réfugiés, de leur hébergement, du nombre de personnes qui sont accueillies. Comme cela se fait en France, cette dissociation est fondamentale. Parce qu'il faut préserver la capacité de l'autorité de détermination à mettre en œuvre les principes du droit d'asile indépendamment de toute autre considération. Et donc, si j'évoque, pour ma part, et je le dis encore une fois à titre personnel, la mise en place de cette autorité européenne, c'est ainsi que je le vois. Au fond, c'est un HCR européen. Parce qu'on l'ignore souvent, mais la force du HCR, c'est d'être autorité de détermination. Le HCR statue sur les demandes d'asile un peu partout, également à travers le monde, comme le fait l'OFPRA en France. Et donc ceci me semble être la base fondamentale d'un consensus européen qu'aujourd'hui, d'ailleurs, personne ne remet en cause. Vous le retrouvez ces principes, par exemple, dans l'accord passé entre l'Union européenne et la Turquie, dont j'imagine nous pourrons reparler. Donc ces principes, ils sont là. Ils ne peuvent pas, à mes yeux, à aucun moment, être remis en cause. J'échangeais récemment avec le représentant du HCR à Athènes, où je me trouvais il y a 48 heures, qui était auparavant représentant du HCR en France. Il me disait combien le monde regardait la manière dont l'Europe mettait en œuvre ce droit d'asile. Car on connaît trop les situations innombrables à travers le monde, où ce droit est mis en péril, est mis en cause, où les Européens ont toujours veillé à être présents. Notre légitimité à être présent là et à être vigilant, notamment à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est bien nous-mêmes d'être intraitables dans la mise en œuvre de la Convention de Genève et du droit d'asile. Donc la base du consensus européen, pour moi, elle est celle-là. Au-delà, nous en venons effectivement à des aspects qui relèvent de nos différences. C'est-à-dire que...
Vous dites que les gens sont d'accord, tous. J'ai cité quelques pays, je ne veux pas vous embarrasser, mais...
Mais parce que je crois
sur
que...
Sur le principe fondamental...
Sur le principe, parce qu'en fait, quand on parle de certains pays européens, de l'Est de l'Europe, qui ont accueilli ou n'ont pas souhaité accueillir, là, nous parlons de questions qui relèvent du nombre de personnes qui sont accueillies.
D'accord.
Et c'est ça, me semble-t-il, où il y a discussion-débat, même si je n'ignore pas que sur les points fondamentaux de mise en œuvre de la Convention de Genève, il peut y avoir des tentatives, des tentations, mais je considère que ceci ne peut pas être débattu. En revanche, là où il y a effectivement une discussion, c'est sur la manière dont les différents pays européens abordent la question de l'accueil des réfugiés, de leur capacité, de leur volonté à le faire. Et là, on retrouve ce que vous disiez, c'est-à-dire que l'on voit bien que des différences d'ordre culturel, historique, de situation économique, de situation d'emploi, de situation démographique, de situation politique, suscite, mais nous savons bien que c'est le cas dans bien d'autres questions que celle de l'accueil des réfugiés, cette réaction en ordre dispersé depuis plusieurs mois de la part des Européens, et qui est, je crois, d'autant plus dommageable et difficile à vivre pour nous tous, que l'on touche à des valeurs fondamentales, et qui donc ont forcément un impact sur la manière dont on met en œuvre effectivement dans la réalité les principes fondamentaux de la Convention de Genève et du droit d'asile. Donc comment en sortir ? Je crois, et c'est ce à quoi le Conseil européen travaille plusieurs mois, que nous avons besoin de cette réponse ordonnée de l'Europe. Nous avons besoin enfin que les Européens retrouvent ce qui a toujours fait leur façon de travailler, que vous connaissez bien, qui est qu'on évite d'annoncer, de prendre des initiatives unilatérales, notamment dans ce domaine-là, sans en avoir parlé aux partenaires. Que l'on puisse avoir une politique de l'accueil dans les différents pays qui soit organisée, qui soit stable et soutenable. De manière à ce que nous puissions être dans cette capacité à tenir l'accueil des réfugiés dans la durée, dans des conditions qui puissent être compatibles avec la dignité des personnes que nous accueillons, compatibles avec l'adhésion des citoyens européens à cet accueil. Et donc, je considère que les décisions du Conseil européen qui ont été prises en 2015, qui relèvent du renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l'Union, de l'accueil des personnes dans ces centres d'identification, qu'on appelle de manière que j'apprécie peu les hotspots, et que l'on mette en œuvre ce que vous avez décrit, c'est-à-dire que les personnes arrivent. Toute demande d'asile déposée sur le sol européen doit être examinée en Europe. Vous l'avez rappelé, M. Bourlange, c'est un principe intangible. que celles et ceux qui relèvent du droit d'asile soient accueillis en Europe, que celles et ceux qui ne relèvent pas du droit d'asile soient reconduits dans des pays tiers ou des pays d'origine. On peut, et je n'ai pas une tendance naturelle à avoir beaucoup de sympathie pour cela, mais c'est le droit et c'est ainsi que cela doit se mettre en place. Et je pense que c'est autour de ces décisions du Conseil européen qui n'ont pas été mises en œuvre pour l'instant de manière pleine et entière et auxquelles la France, à l'élaboration de laquelle la France a largement participé, que se trouve la réponse d'une capacité, encore une fois, à respecter le droit d'asile et à accueillir dans de bonnes conditions des réfugiés qui doivent être accueillis au vu des drames qu'ils vivent.
Nicole Niesoto.
Oui, moi je voudrais revenir sur la France, l'Allemagne et la Turquie, mais d'abord, si vous me le permettez, une question presque technique. Qui établit la liste des pays dont le comportement ou l'état de guerre civile justifie que leurs ressortissants, quand ils arrivent en Europe, soient considérés comme éligibles au statut de réfugié politique? Autrement dit, qui fait cette liste? La Syrie, c'est très clair. Il y a des débats, paraît-il, sur le Soudan, par exemple, voire peut-être un jour le Nagorno-Karabakh, je ne sais pas. Et est-ce que cette liste est la même pour tout le monde? Ça, c'est ma question technique. Ensuite, de façon un peu plus problématique, la France, l'Allemagne et notamment la Turquie, la France a une mauvaise image dans cette histoire, dans cette affaire, depuis le début de la crise des réfugiés, parce qu'elle est écartelée entre ces principes humanitaires dont vous êtes le plus fervent défenseur, et puis des considérations politiques ne souhaitant pas gonfler les rangs des partis et mouvements xénophobes, racistes, qui voient dans les réfugiés et dans les terroristes, parce que l'amalgame est très vite fait, des raisons d'augmenter leur potentiel. À l'inverse, l'Allemagne a une bien meilleure image, je crois, même si elle est soumise aux mêmes tensions. Et on a vu qu'après les déclarations très généreuses de Mme Merkel en 2015, la radicalisation de certains mouvements en Allemagne également, le parti anti-musulman, l'alternative für Deutschland, qui a fait 10% aux dernières élections régionales, ce qui a peut-être conduit Mme Merkel à proposer ce fameux accord avec la Turquie, sur lequel j'aimerais avoir votre avis, si c'est possible, parce que vos collègues du HCR, notamment, en particulier en Grèce, n'ont pas manqué d'en critiquer la teneur.
Pascal Brice.
Sur la première question que vous évoquiez, c'est bien chaque OFPRA, si j'ose dire, dans chaque État membre de l'Union, qui détermine si une personne relève ou non du droit d'asile. Et c'est là où la perspective d'une autorité de détermination européenne prend tout son sens. Même si je redis qu'aujourd'hui, quand vous prenez les grands OFPRA européens, nous avons à peu près les mêmes doctrines et les mêmes conditions de mise en œuvre. Donc c'est chaque OFPRA qui, dans chaque État membre de l'Union, statue. Comment ? Sur la situation individuelle de chacune et chacun. Il faut sans cesse le rappeler. Le principe fondamental du droit d'asile, c'est que c'est la demande de chacun et de chacune qui est examinée au vu de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de liste. Même si je vais y revenir, il existe des listes.
Un Anglais qui serait poursuivi pour son homosexualité en Grande-Bretagne pourrait demander asile. C'est pas le pays
Si ce n'est que là, nous tombons sur l'Union européenne où il y a une présomption de respect des droits de l'homme, même si nous avons des demandes
même
d'asile
si
de certains
droits fondamentaux. Là, l'Angleterre a un statut particulier.
Voilà, qui plus est. Mais oui, c'est toujours un examen individuel et c'est fondamental. Ici ajoute qu'il existe effectivement des listes dites de pays d'origine sûrs. Pour l'instant, chaque État membre de l'Union établit sa propre liste. Et ce qui est en préparation, c'est une liste européenne. Mais la conséquence de cette liste n'est pas que l'on n'examinerait pas la demande d'asile de quelqu'un qui vient d'un pays réputé sûr. C'est simplement que nous sommes conduits, et c'est notamment la loi française, à l'examiner plus vite.
D'accord.
Dans des délais plus brefs, mais avec des garanties qui sont toujours présentes dans l'examen de la demande d'asile. Donc, encore une fois, c'est chaque OFPRA qui, de manière, c'est le cas en France, indépendante, puisque l'OFPRA élabore, à travers sa division d'information, sa propre doctrine, de manière indépendante, sur la situation dans tel ou tel pays d'origine que nous croisons avec la situation d'un demandeur soudanais qui vient à l'OFPRA, à son entretien avec un officier de protection, et invoque des craintes parce qu'il est du Darfour et que s'il rentre au Darfour, il est dans une situation qui met en péril sa vie et celle de sa famille.
Il n'y a pas d'erreur d'interprétation entre les différents OFPRA ?
Non, parce que nous avons des échanges entre nous. Le Bureau européen d'appui à l'asile depuis quelques années contribue à la convergence des analyses et de manière générale, nous sommes assez convergents. Il y a effectivement des cas où nous avons des interprétations un peu différentes. Nous avons à l'OFPRA, par exemple, un regard sur la situation politique en Érythrée, aujourd'hui, bien plus négatif que, par exemple, nos collègues britanniques. Il existe des cas où il y a effectivement des différences d'approche. Mais de manière générale, et d'autant plus que nous sommes dans cette concertation régulière entre nous, il y a une véritable convergence. Mais c'est là où le fait d'avoir une autorité européenne permettrait d'avoir la même analyse complètement sur la situation dans les différents pays. Si l'on en vient à la France, l'Allemagne, l'accueil des réfugiés. Vous disiez que nous avions à l'OFPRA une vision humanitaire, que l'on pourrait, ce n'était pas vos mots, mais qu'on pourrait interpréter comme une tentation de l'opposer à une vision réaliste. Je redis que, en tant que directeur général de l'OFPRA, j'ai une vision qui est très simple, c'est l'application du droit d'asile. Je n'en ai pas d'autre. Mais puisque nous sommes dans un débat qui va au-delà, qui porte sur cette politique de l'asile au niveau français et européen, je vais vous dire que la manière dont nous concevons les choses à l'OFPRA et dont je la conçois ne conduit pas à une approche humanitaire qui serait, je dirais, hors sol. Je pense qu'on ne peut pas conduire une politique d'accueil des réfugiés sans avoir une claire perception de ce que sont les sociétés européennes aujourd'hui. Pourquoi ? Je n'ai pour ma part qu'un seul objectif à la tête de l'OFPRA, mettre en œuvre le droit d'asile, et contribuer par ce fait, à travers la bienveillance et la rigueur dont je parlais, à l'accueil des réfugiés dans notre pays et en Europe. Et pour cela, je pense qu'il faut être dans la capacité à répondre aux interrogations des Européens et des Français à l'égard de cette politique. Est-ce que nous sommes capables de montrer qu'en étant bienveillants et rigoureux, nous sommes en situation d'accueillir plus de réfugiés dans notre pays dans de bonnes conditions de dignité, d'organisation et de maîtrise ? Et de ce point de vue-là, pour revenir à cette question de la France et de l'Allemagne, c'est la raison pour laquelle je pense que nous avons besoin collectivement, en Europe, d'une politique de l'accueil des réfugiés qui soit lisible. Et qui soit pour cela soutenable, et qui soit soutenable dans la durée, qui soit irréprochable du point de vue du respect de la Convention de Genève et du droit d'asile, et qui soit tel du point de vue du nombre des gens accueillis, que nous puissions dire que nous avons une politique durable dans la continuité qui contribue à l'adhésion des citoyens européens en démontrant, en montrant, parce que c'est ce que nous vivons, que lorsque nous accueillons monsieur, je vais l'appeler par son prénom pour préserver la confidentialité de la protection par l'OFPRA, Mohamed, qui a quitté Alep dans des conditions terribles et qui a retrouvé une vie normale comme potier à Foix dans l'Ariège, entouré de sa famille, il y a là quelque chose qui fait du bien, qui lui fait du bien, qui fait du bien à sa famille, qui fait du bien à notre pays. Et pour cela, nous avons besoin de respecter le droit d'asile dans des conditions qui soient dans des conditions, encore une fois, d'organisation et de maîtrise. Je viens sur l'accord avec la Turquie. Je suis un responsable d'administration. Je ne vais pas commenter un accord du Conseil européen. Je veux simplement vous dire que je crois indispensable que la Turquie soit associée à la capacité de l'Europe à reprendre le contrôle. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que pour le bien de l'accueil des réfugiés et pour l'unité de l'Europe, ce qui s'est passé en 2015 ne pouvait pas se reproduire en 2016. Il faut que l'Europe reprenne le contrôle. Reprenne en contrôle dans le strict respect du droit d'asile. Cet accord passé avec la Turquie comporte des rappels des principes fondamentaux que M. Bourlange rappelait à l'instant, du droit d'asile, l'examen individuel des demandes d'asile, le non-refoulement des demandeurs d'asile, la protection des réfugiés. Et donc, il est évident que la mise en œuvre de cet accord doit respecter pleinement ces conditions. Vous le disiez, le HCR y veille, a pris des positions très claires. Je peux vous dire que je me suis entretenu avec mes collègues grecs à Athènes, parce que l'OFPRA participe à la mise en œuvre de cet accord sur le plan de la relocalisation, c'est-à-dire que des réfugiés qui sont en Grèce aujourd'hui, que nous allons contribuer à accueillir en France et un peu partout en Europe, je peux vous dire que mes collègues grecs veillent aussi au respect de ces principes. Et nous-mêmes, OFPRA, nous participons à ce qui, dans cet accord, relève pleinement de la mise en œuvre du droit d'asile, la relocalisation depuis la Grèce vers l'Europe, la réinstallation de réfugiés depuis la Turquie vers l'Europe. Et vous voyez bien, notamment, dans la manière dont les Grecs gèrent cette affaire, notamment en annonçant un peu de temps avant de mettre pleinement cet accord, le fait qu'il y a une vigilance de la part de mes collègues, mais aussi de la part du HCR et d'autres, dans la famille de l'asile. Vous savez, nous sommes une famille. Le HCR, les Européens, les offices européens, et nous sommes très attachés, évidemment, à ce que les principes du droit d'asile qui sont dans l'accord soient, évidemment, absolument et pleinement respectés.
François Bujon de l'Étang.
Oui, j'ai deux questions très concrètes pour vous. La première est de nature, je dirais presque, du fonctionnement administratif dans la vie courante. Vous avez, pendant votre premier mandat, réussi à amener un certain nombre d'améliorations dans le processus de traitement des demandes d'asile. Et vous avez augmenté les personnels, Philippe l'a rappelé, vous avez diminué les délais d'instruction de chacune de ces demandes, et vous avez même réussi à mieux harmoniser l'articulation entre le fonctionnement de l'OFPRA et celui de l'instance d'appel qui est la Cour nationale du droit d'asile, puisque ça n'était pas évident au départ et que quelquefois la Cour nationale du droit d'asile se montrait moins rigoureuse que ne l'était l'OFPRA, par exemple. Vous avez réussi à harmoniser tout cela. Mais vous avez certainement encore des difficultés dans le fonctionnement concret, des améliorations que vous souhaitez apporter à tout cela. Au fond, que manque-t-il encore pour que le système soit satisfaisant, à vos yeux, dans son fonctionnement? Ça, c'est ma première question. Et puis j'en ai une seconde qui est différente, mais au fond complémentaire, qui est que la France a du mal, quelquefois, à attirer pour leur résidence future, les demandeurs d'asile. Instruire la demande d'asile, c'est une chose. Voir le réfugié s'installer en France, c'en est une autre. Et on constate, et ça ne peut que nous interpeller, que beaucoup de ces réfugiés sont réticents à s'installer en France. Tout le monde sait qu'ils veulent aller dans les pays où le taux de chômage est évidemment inférieur. Ils veulent aller en Allemagne, ils veulent aller en Suède, ou alors, on le voit bien à Calais, ils veulent aller en Grande-Bretagne, qui pourtant ne fait pas partie de Schengen. Comment se fait-il? Le président de la République s'est engagé à ce que la France prenne 30 000 de ces réfugiés avant la fin de l'année 2017. Mais on a l'impression qu'on a du mal à les trouver, finalement. Au rythme auquel ils s'installent, on a presque l'impression qu'il faut les persuader, un par un, qu'au fond, s'installer en France n'est pas une idée aussi absurde ou aussi bête que cela. Comment peut-on s'expliquer pareil phénomène?
Pascal Brice.
C'est vrai qu'il y a un paradoxe qui est très apparent et qui, je pense, suscite l'interrogation de nombreux Français. Par exemple, lorsqu'ils voient les officiers de protection l'OFPRA dans ce travail de conviction à Calais pour que les gens renoncent à ce projet d'aller en Grande-Bretagne, demander l'asile en France, ou lorsque nous sommes rendus à Munich en septembre 2015 à la demande du président de la République, il y a là quelque chose qui étonne. Je voudrais essayer d'être aussi lucide que possible.
Qui étonne et qui choque.
Et qui choque, et je le comprends. Je voudrais essayer d'être aussi lucide que possible sur ce point, parce que il y a parfois, dans ce débat tel qu'il apparaît en France, au-delà des paradoxes de certaines interrogations, un côté un peu narcissique dans la manière dont ce débat est parfois abordé. Cette façon de dire, mais est-ce qu'au fond, est-ce que la France est belle dans les yeux des migrants? Et je réponds souvent que telle n'est pas la question. La France est belle. Elle l'est par principe.
Platonicien.
Oui, absolument. Je vous dis, il faut une conviction qui ne variera pas. Et dans les yeux des migrants, il y a l'exil et la détresse. Il y a parfois la conviction que l'on sait où l'on va, parce qu'on va rejoindre sa famille quelque part en Europe. Donc on sait très bien où on va. Mais pour la plupart d'entre eux, ils ne savent pas où ils vont. Ils sont pris dans ces phénomènes de masse qui font que tout le monde part. Et tout le monde va où? En Allemagne. Et donc tout le monde va en Allemagne. Et pourquoi va-t-on en Allemagne? Parce que des compatriotes sont déjà présents. Parce qu'il y a de l'emploi. Parce que les passeurs vous y incitent. Parce que tout vous y conduit. Et donc je dis souvent, ça paraît être de la langue de bois diplomatique, que les gens ce n'est pas qu'ils ne vont pas en France, c'est qu'ils vont en Allemagne. Mais c'est la réalité. Ça a été longtemps la réalité, jusqu'à ce que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les frontières se ferment. Et donc cette réalité est en train de bouger. Mais je voudrais qu'il n'y ait pas d'incompréhension dans l'esprit des Français sur ce qui habite un homme, une femme, une famille lorsqu'elle part sur les routes de l'exil. Et ces personnes sont, et vous savez, c'est un aspect très frappant pour nous, pour les officiers de protection de l'OFPRA, ces personnes sont extraordinairement sensibles à toute forme d'information et de désinformation. Vous savez, lorsque nous voulons échanger tranquillement avec des demandeurs d'asile ou des migrants, selon cette expression que je n'aime pas beaucoup, puisque l'OFPRA ne connaît que des demandeurs d'asile, mais enfin, des migrants, eh bien nous allons là où se rechargent les téléphones portables. Et dans des conditions les plus invraisemblables. Il y a toujours le lieu où on a tiré des fils, et là on recharge des portables. Parce que l'information, elle est là, elle est permanente. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es là, tu es en France, mais pourquoi tu vas en France? Nous on est là, viens donc. C'est une bonne idée d'aller dans un centre d'accueil et d'orientation, quitter Calais comme Bernard Cazeneuve le propose. J'y vais, ah mais non, quelqu'un appelle, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas dans tel endroit de France alors que tu m'as dit que tu venais en Grande-Bretagne? C'est sans cesse comme ça. Et donc ces parcours sont chaotiques. Et donc je voudrais redire ça parce que je pense qu'il y a souvent un effet d'optique dans la manière dont tout ceci est vu. Ce qui me paraît également vrai, c'est que longtemps, et c'est le lien peut-être avec votre première interrogation, longtemps les délais d'instruction très longs en France ont découragé des demandeurs d'asile relevant de besoins de protection. Je pense à des Syriens, notamment. C'est-à-dire que le constat que nous avons fait à l'OFPRA, c'est que lorsque vous avez des délais d'instruction très longs, il faut se souvenir qu'il y a encore 2 ou 3 ans, c'était 2 ans en moyenne pour un demandeur d'asile en France avant d'avoir une réponse. Hein, c'était l'époque où Manuel Valls décrivait ce système en pleine implosion. Eh bien, nous avons fait le constat que lorsque les délais d'instruction sont très longs, cela décourage celles et ceux qui ont un besoin de protection, qui viennent parce qu'ils savent qu'ils relèvent de ce besoin, ils en ont besoin, par exemple les Syriens, mais à l'inverse, des personnes qui viennent sans avoir réellement de besoin de protection au titre de l'asile, je pense notamment à la plupart des demandeurs d'asile albanais ou kosovars en France, même si certains peuvent relever du besoin de protection, mais ils sont rares, ceux-là s'accommodent très bien de délais d'instruction très longs, parce qu'ils ne viennent pas rechercher une protection, ils viennent rechercher un droit au séjour le plus long possible. Donc, ceci a certainement contribué à, je dirais, encourager des demandes d'asile dans d'autres pays européens plutôt qu'en France, mais la réduction des délais d'instruction dans laquelle nous sommes engagés depuis 3 ans doit permettre de corriger ce phénomène. J'en viens de cet égard au point que vous abordiez sur les perspectives de réforme du système de l'asile en France. Vous savez, nous avons eu la chance, ça se provoque, mais c'est aussi une chance de pouvoir consolider le système de l'asile en France avant le déclenchement de cette crise européenne de l'asile depuis l'été 2015. Je redis, crise européenne de l'asile et pas crise de l'asile en France. En France, le système est sous tension. Il y a trop de demandeurs d'asile qui sont encore sans hébergement. Les délais d'instruction doivent encore être réduits. Dans certains endroits, l'accès à la procédure en préfecture est encore trop long. Mais il y a en France des progrès du droit d'asile, et ces progrès, ils sont le fait de la consolidation du système auquel nous avons procédé depuis 3 ans, par la réforme de l'OFPRA dont vous parliez, qui a été une mobilisation très forte des agents de l'OFPRA auxquels je veux rendre hommage, ici avec vous, la loi asile qui a été votée au mois de juillet, et le doublement des places d'hébergement en CADA que Bernard Cazeneuve a mis en place depuis maintenant plusieurs mois. Et donc cette consolidation, elle nous met en situation de tenir le choc. Un choc, soyons modestes, qui n'a rien à voir avec ce que nos collègues allemands vivent. Rappelons qu'en France, 80 000 demandes d'asile en 2015, 1 million en Allemagne. Donc je veux dire, je veux être d'une extrême modestie. Mais le choc est réel. Et nous y parvenons parce que nous avons pu nous consolider auparavant. Qu'est-ce qui est devant nous? Et la tâche qui est devant nous est immense. Parce que tout donne à penser que ces flux vont se poursuivre. Et donc, il faut que nous soyons en capacité à l'OFPRA de continuer à y faire face. Il faut qu'à la fois nous puissions faire face à cette augmentation de la demande d'asile, qui reste modérée, hein, qui n'est pas du tout une situation à l'allemande, et en même temps d'aller au bout de ce que nous demande le gouvernement, c'est la réduction des délais d'instruction à 3 mois en moyenne. Donc nous avons encore du chemin à parcourir. Pour cela, vous l'avez dit, nous avons eu des effectifs supplémentaires. Il faudra, je le pense, si le gouvernement et le Parlement l'acceptent, que régulièrement le système de l'asile soit redimensionné. Et je sais que le ministre de l'Intérieur y est très attentif. Il faudra aussi que l'OFPRA poursuive ses efforts pour être vraiment en situation de ne jamais passer à côté d'un besoin de protection. Et vous le disiez, et je vous remercie de l'avoir signalé, nous avons mis fin à une anomalie qui voulait que, de longue date, en France, ce soit le juge administratif, la Cour nationale du droit d'asile qui en appelle, reconnaissent un plus grand nombre de statuts de réfugiés que l'OFPRA en première instance. Ceci est terminé. Pourquoi ? Parce que l'indication que j'ai donnée aux officiers de protection, c'est très simple. S'il y a un besoin de protection, c'est à l'OFPRA de le reconnaître, sans attendre l'intervention du juge. Eh bien, nous devons aller au bout de cette logique-là. Nous devons sans cesse être en capacité à protéger des femmes victimes de violences, des homosexuels, des lesbiennes persécutées en raison de l'orientation sexuelle, des victimes de la torture qui ont la plus grande difficulté à s'exprimer dans l'entretien du point de vue de leurs craintes. Nous avons encore des progrès à cet égard à faire pour mieux protéger, en le faisant dans des délais plus réduits. C'est à la fois une affaire de moyens supplémentaires à venir, je l'espère, mais aussi de capacité de l'OFPRA à s'adapter et surtout, et enfin, à développer cette réactivité dont nous cherchons à faire preuve, être à Calais, être à Lesbos, en tout cas maintenant plutôt à Athènes ou dans le nord de la Grèce, être en Italie, pour être en situation d'être là où le besoin de protection est manifeste.
Jean-Louis Bourlange ?
Oui, je voulais poser une question peut-être un peu embarrassante.
Mais bref.
Est-ce que vous considérez, sur la base de l'accord qui a été conclu, que toutes les demandes sont examinées individuellement avant refoulement ? Et au-delà de ça, plus généralement, vous avez évoqué la modification des droits d'asile, des conditions. Vous avez des réfugiés politiques, vous avez des migrants économiques. Cette distinction un peu manichéenne, un peu simpliste, résistera-t-elle ? Est-ce que nous n'avons pas une troisième catégorie de migrants économiques obligatoires, si je puis dire, sous l'effet des mutations climatiques ? Et comment considérez-vous qu'il faut aborder cette énorme question ?
Pascal Brice.
Sur la mise en œuvre de l'accord avec la Turquie, je dirais, pour moi, du point de vue de l'OFPRA, les choses sont très simples. Il n'y a pas d'alternative. Toute demande d'asile doit être examinée. Et je constate que nos collègues grecs ont décidé de prendre un peu de temps pour s'en assurer et mettre en œuvre un dispositif. Au-delà,
les gens dans les bateaux qui sont partis étaient tous examinés.
Je ne suis pas en situation, et ce n'est D'accord. pas ma responsabilité oui, que oui. de le dire. Le HCR le dira, ça a été dit. Je considère pour ma part qu'il n'y a pas d'alternative. Toute demande d'asile doit être examinée. Sur le deuxième point, oui, bien sûr, il y a cette tension. Il y a cette tension parce que, je le redis souvent avec de bonnes intentions, il y a la tentation de la confusion. Mais je redis que la confusion entre ce qui relève de l'asile et ce qui relève de la politique migratoire est délétère pour le droit d'asile. Je considère, d'abord, pour l'OFPRA, c'est tout simplement une obligation, on n'a même pas à réfléchir, hein, mais de manière citoyenne. Il faut que dans ce pays, chacun sache que celles et ceux qui relèvent du droit d'asile sont protégés, celles et ceux qui n'en relèvent pas ne sont pas protégés par le droit d'asile. Ce qui laisse ouvert le débat sur la politique migratoire au niveau national et européen, mais qui n'est pas l'affaire de l'OFPRA et qui n'est pas mon affaire. Et en redisant que le droit d'asile n'est pas... Vous savez, j'utilise souvent la métaphore des couloirs de course. Vous avez deux couloirs de course. Vous avez le couloir de l'asile et le couloir de la politique migratoire. Ils doivent rester totalement imperméables. C'est ma feuille de route telle que le président de la République et le Premier ministre me l'ont confiée depuis maintenant 3 ans à l'OFPRA. Et j'y veille de manière scrupuleuse. Ça n'enlève rien au fait que le couloir de l'asile soit évolutif. Et que nous l'élargissons. Et que nous l'élargissons parce que le droit d'asile est un droit vivant qui contribue, qui suppose que notre doctrine et celle de la Cour nationale des droits d'asile soient capables d'évoluer en fonction des situations. Il y a quelques années, le droit d'asile ne concernait que peu des femmes et des hommes victimes de persécutions parce qu'ils sont homosexuels ou lesbiennes. L'OFPRA ne protégeait pas ou que très peu des femmes victimes de violences conjugales ou de mariages forcés. Nous travaillons, les officiers de protection qui sont des experts travaillent sur le plan de la doctrine et sur le plan de la mise en œuvre pour que nous soyons en capacité de protéger ces hommes et ces femmes. Nous devons être en situation d'appliquer ce qu'on appelle la protection subsidiaire, donc avoir une connaissance fine de la situation, par exemple au Soudan. Quelles sont les parties du Soudan, comme le Darfour, qui sont dans une situation de conflit telle que les hommes et les femmes qui le quittent sont absolument pas en situation d'y retourner. Ça, ça suppose de notre part une vraie capacité d'analyse, d'être dans l'actualité de ce qui se passe et de faire vivre notre doctrine. C'est ça, à mes yeux, la réponse.
Vous le faites avec le HCR, qui vous aide beaucoup, là.
Le HCR nous aide. Nous sommes dans cette volonté-là. Hein. Et encore une fois, le droit d'asile, il doit être pleinement et mis en œuvre et de manière intransigeante. Il doit être strictement dissocié de la politique migratoire, qui est un débat en tant que tel, mais qui doit être absolument dissocié. Il n'y a pas de manichéisme, pour reprendre votre expression. Il y a d'autant moins de manichéisme que je peux témoigner de ce que le travail des officiers de protection était extraordinairement difficile. Je vais vous donner un exemple. Je croisais hier une jeune collègue, officier de protection, et je la voyais marquée dans l'ascenseur de l'OFPRA. Et je lui dis, vous allez bien? Oui, oui, ça va. Elle me dit, je sors d'un entretien avec un demandeur en rétention, puisque l'OFPRA veille à ce que l'asile en rétention soit pleinement respecté. Et elle me dit, j'ai fait l'instruction, j'ai travaillé avec mon chef de section, je vais devoir lui opposer un rejet, il n'y a rien dans le dossier. Et elle me dit, il a mon âge. Je vais lui faire un rejet parce que c'est le droit d'asile. C'est dire que, et c'est ma responsabilité, puisque cette décision est prise au nom du directeur général de l'OFPRA, notre responsabilité, elle est de ne jamais passer à côté d'un besoin de protection, mais d'assumer aussi, avec toute la difficulté que cela comporte, que lorsque quelqu'un ne relève pas du droit d'asile, il n'a pas à être protégé. Et cela suppose qu'en France, comme partout en Europe, on soit totalement intransigeant sur le fait que ces principes soient totalement respectés.
Je vous remercie beaucoup, Pascal Brice, de nous avoir éclairé sur ces questions de l'asile. Je rappelle à nos auditeurs que donc la semaine prochaine, ce sera la seconde des deux émissions thématiques traditionnelles à ce moment de l'année, et que cette seconde émission thématique aura pour invité, j'allais dire exceptionnel, en tout cas remarquable, Mario Vargas Llosa, qui est à la fois prix Nobel de littérature et désormais membre de la très fameuse bibliothèque de la Pléiade, dans laquelle peu d'ailleurs d'auteurs étrangers sont entrés de leur vivant. Mais avant, afin de vous mettre en bouche, vous avez rendez-vous avec Alain Kruger pour son émission « On ne parle pas la bouche pleine » et puisqu'il est cette semaine beaucoup question de l'Angleterre grâce à ou à cause de l'anniversaire de la reine d'Angleterre, et c'est au tour de Falstaff que Alain Kruger reçoit Nathalie Vienne-Guérin, qui est professeure et à l'université et qui est vice-présidente de la société Shakespeare et qui se propose de présenter le monde shakespearien vu du ventre de Falstaff. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Adrien Nazelli et Anne-Sophie Pierry, avec aujourd'hui à la technique Pierre Mine et Benjamin Bailly. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle émission thématique de L'Esprit public avec Mario Vargas Llosa.